C'est la dernière de la saison. Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Cop Gone. Ça y est, on connaît l'épilogue de cette nouvelle saison de Ligue 1, 34e journée, samedi soir. L'OL a eu chaud, mais l'OL sera européen, messieurs, la saison prochaine. On va en parler ensemble avec Mickaël Napoletano, l'entraîneur de Saint-Priest, qui est avec nous. Bonsoir, Mickaël.
Bonsoir, Elodie.
Saison terminée aussi pour vous.
Ça y est.
C'est tout bon. Le
place
maintien est assuré.
Le maintien est assuré depuis et 3-4 matchs, c'est bon.
Un petit peu de vacances maintenant. Face à vous, Grégory Cuiron, il est jamais en vacances, lui, notre chef lyonnais,
jamais.
Supporter de l'OL. Ça va, Greg?
Très bien, je constate qu'il y a Dream Team.
Tout
je
à
constate
fait.
Qu'il n'y a pas Edouard G.
Et donc je constate qu'il y a Edouard G. Il fait partie de ces gens qui suivent l'OL toute la saison et qui s'en vont dès que la dernière journée est jouée, qui n'attend pas le lundi.
Il est on comme le les joueurs, il avait les valises dans la voiture.
On le salue quand même, Edouard G. Et Thierry Boirivant avec nous également, président des supporters des Rouges et Bleus.
Bonsoir Elodie.
Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous. On perd pas de temps, on a plein de choses à voir ensemble parce qu'il y a cette fin de saison, le match contre Angers, la der d'Alexandre Lacazette, l'avenir de l'OL, on va essayer d'évoquer tout cela. Ce soir, on commence par cette fin de saison donc qu'on a vécu encore une fois avec l'OL dans la peur, mais le général était là pour sa dernière. Il a inscrit un doublé, son 200e but sur pénalty, 201e but après sur une passe décisive de Ryan Cherki qui termine lui meilleur passeur de la Ligue 1. Une 6e place arrachée au bout du bout des arrêts de jeu à Strasbourg grâce à la victoire du Havre sur pénalty. L'OL est donc 6e. L'OL joue pour le moment les barrages de la Ligue Conférence, mais il va falloir attendre la finale de Coupe de France. On aura l'occasion d'en reparler du PSG ce dimanche. Mais d'abord, messieurs, sur cette fin de saison, cette dernière journée, de soulagement.
Oui, bah oui, un ouf de soulagement. Je remarque que Strasbourg nous réussit plutôt bien, parce que l'année dernière, c'était aussi Strasbourg sur le dernier match.
Mmh, exactement.
Donc tant mieux, c'est bien. Ouais, un dénouement sur le gong, on va dire, parce que voilà, par rapport au but du Havre, mais on va dire on a des regrets, beaucoup de regrets sur cette saison.
Greg, des regrets aussi. Content d'avoir cette place européenne.
Bah, en fait, c'est la même chose que l'année dernière, mais c'est pas la même dynamique. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est nous qui sommes allés la chercher avec un pénalty à la dernière minute. Là, on dépendait du résultat d'un autre match. Que depuis le match de Manchester, bah, on sent que la machine est un petit peu au mieux rouillée, au pire cassée. Mais on est bien content d'avoir cette 6e place qui, je pense et j'espère, sera en Ligue Europa. C'est vrai que, alors, le PSG, ça tombe pas loin de leur finale de Champions, mais Reims va avoir les playoffs. Donc, on touche du bois, mais c'est vrai que je préférais l'Europa League en tout cas.
Thierry, comment vous avez vécu, vous, ce dernier match contre Angers, cette dernière de la saison ?
C'était vraiment particulier entre le départ d'Alex, les quelques banderoles qu'il y a eu envers John Textor. C'était un contexte qui était un peu particulier. Mais après, le fait d'être européen, ça, même si ce n'est pas de la même façon que l'année dernière, ça fait quelque chose. On se dit, ouais, quand même, Lyon pas européen, ça aurait pas été possible. Donc voilà, c'est vu des tribunes, c'était assez marrant parce que tout le monde regardait le téléphone et tout le monde attendait et on a explosé de joie quand on a su que...
Oui, parce qu'il y avait 6 minutes d'arrêt de jeu à Strasbourg. Le match était fini à Lyon. On a vu aussi les joueurs Corentin Tolisso aussi qui attendaient ce dénouement. On dit merci au Havre. Mais ça n'enlève pas, malgré tout, messieurs, les difficultés de cette saison, de cette équipe lyonnaise et encore de cette saison avec les montagnes russes, Mickaël, où on y a cru et puis l'OL s'est écroulé, l'OL est revenu.
Je vais dire même, pour moi, l'OL est à sa place parce qu'au final, sur les confrontations des matchs qu'ils ont dû jouer sur le haut du tableau, on n'a pas su prendre les points, on n'a pas su être au rendez-vous. Donc ouais, on est à notre place parce que est-ce que c'est par rapport à, enfin, je sais pas, il y a tellement de paramètres dans un club qui explique ça. Aujourd'hui, on a eu le problème Pierre Sage, on a le problème du président. On n'a pas de stabilité depuis 2 ans et en fait, ça amène beaucoup de problèmes et au final, bah, ça se ressent sur le terrain et la saison a été particulière, très particulière même. On a eu à un moment donné une petite bouffée d'oxygène avec la Ligue Europa, Manchester. On y a cru. Derrière, on s'est écroulé dans le derby. Et derrière, bah, la fin de saison était un peu en queue de poisson. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de regrets dans cette fin de saison, parce que même sur la totalité, on va dire. Parce qu'avec l'effectif qu'on a, normalement, on aurait dû être, je pense, dans les 4 premiers. Et on n'a pas suivi le rendez-vous, tout
c'est
simplement.
C'est l'objectif. Hein, John Textor l'avait dit, on s'en souvient, en début de saison. S'il n'y a pas de Ligue des Champions à la fin de la saison, ce sera un échec.
Bien sûr, c'est un échec. Bah, pour une équipe comme Lyon, c'est un échec, c'est une certitude. Après, lui, pour lui, c'est un échec. Est-ce que c'est parce que c'est financièrement que c'est un échec? Parce qu'il espère aussi faire rentrer des sous. Mais oui, sportivement, c'est un échec. Et la Ligue Conférence, c'est pas la Ligue Europa déjà.
Non, déjà.
Les confrontations, c'est pas.
Aucun club ne la joue réellement depuis que.
Et puis même, c'est pas une coupe qui remplit les stades. Donc au final, il y a moins d'engouement.
Du côté de Lyon, on n'est pas le genre à ne pas jouer les coupes d'Europe en général.
Oui, mais tu verras qu'au fil de la saison, quand t'auras des équipes.
Il y a déjà un barrage à passer, hein, messieurs, on va tous aussi.
Quand t'auras des équipes qui viennent du fin fond de la Norvège ou une je sais d'où, ça va pas amener d'engouement au stade, donc ça sera différent.
Et surtout qu'on en parlera aussi un peu plus tard dans l'émission, on va se projeter, mais avec quel effectif, avec quelle équipe l'OL va entamer cette saison, ça va aussi jouer. Mais d'abord le bilan, Mika nous parlait d'échecs. Pour vous, le bilan, messieurs, échec, gâchis, simple regret, comment vous voyez cette saison de l'OL ?
Personnellement, comme un échec, parce que la dernière fois que j'étais venu, je t'avais dit qu'on finirait deuxième. Donc, tu vois, je suis vraiment loin du compte. Et vraiment, c'est un échec parce que pour moi, Manchester, on doit passer. Le derby, on doit le gagner. Puis on doit finir la saison en boulet de canon. Et c'était vraiment pas le cas. C'est plus qu'un échec. Effectivement, on doit être au minimum quatrième. On a l'effectif pour. C'est une grosse déception. Et je crois que Alex Lacazette, quand il y a eu sa célébration à la fin, l'a bien résumé. On n'a pas atteint les objectifs. On est européen, certes, mais voilà, on n'a pas atteint les objectifs prévus.
Mika, également Thierry, vous évoquez ce match contre Manchester United, ce quart de finale retour à Old Trafford. C'est vraiment là, Greg, pour vous aussi, le tournant de cette saison et ce qui a gâché finalement ce dernier mois de championnat.
Alors ça a cassé la dynamique. Je pense que si on fait un bon résultat face à Manchester, on fait pas le même match face à Saint-Etienne. Alors moi Lens, je me l'explique toujours pas parce que j'ai rien à leur reprocher. Je trouvais qu'ils avaient plutôt bien joué. On a tiré, on a produit du jeu et on perd 2-1. Ouais, ça a cassé là. Mais je pense, je repense à cette saison. Faut voir aussi là. Entre guillemets, le championnat est agréable à voir, mais la faiblesse du championnat, c'est le nombre. Il n'y en a pas un qui est assuré, quoi. Ils ont tous perdu à des moments. Enfin, on a eu.
Et
au moins...
c'est pour ça qu'il y a eu du suspense aussi jusqu'à la fin, parce qu'on l'a vu, il y a quatre équipes qui se tenaient en trois points.
Mais je pense qu'on a eu six occasions de revenir. Mmh. C'est pour ça que c'est encore plus décevant. On n'a pas loupé une fois le coche, on a loupé cinq ou six fois le coche.
Facilement. Ouais.
Donc,
tous les moments clés, tu les loupes.
Et pour moi, la vraie déception et le véritable échec, c'est que maintenant, on en vient à être content d'être sixième. Mmh. J'ai l'impression que les. On a un degré de tolérance qui est
exactement.
Alors on a quand même encore du budget, on a quand même encore un effectif et ça c'est triste.
Il y a une époque finir sixième c'était catastrophique et aujourd'hui on se contente de ça. Mais pourquoi on se contente de ça? Je sais parce que en fait c'est la seule bouée qu'on arrive à retenir parce qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui.
C'est ça.
Qu'on se rattache à ça. Donc au final oui, mais une saison c'est trop difficile quand on fait que parler de ton club. Dans les médias, on fait que parler d'argent et que parler de finances, que de problèmes.
C'est licenciement.
L'extra sportif a perturbé aussi pour vous, Mickaël, forcément les joueurs.
On a fait que ça, on a fait que de parler des sportifs.
Parce que Niakate l'a dit, je ne sais plus après quel match, si c'est après Lens ou Monaco, en disant que non, finalement, il ne parlait pas trop de ça dans le vestiaire, de ce qui se passait, des problèmes financiers. Pour vous, c'est de la com. Oui, bah, ça a impacté.
Bien sûr, c'est de la com. Mais à un moment donné, tout joueur se pose des questions. Comment ça va se passer l'année prochaine? Est-ce qu'on va être en Ligue 2? Comment ça va se passer pour mon contrat? Tout joueur se pose des questions. Quand on voit Marseille et Monaco, il n'y a pas de problème extra-sportif. On n'a pas entendu parler d'argent, on n'a pas entendu parler de... On parlait que de ces clubs-là sur le terrain. Problème avec les arbitrages, ceci, cela. Mais sinon, c'est des clubs qui sont stables au niveau sportif. Et au niveau finance, je ne sais pas, ça a l'air en tout cas. Mais Lyon, on s'est perdu en fait dans des problèmes et on en a oublié du terrain. Et on en a oublié le terrain et au final, bah, aujourd'hui, ce que je disais, voilà, on se retient à cette sixième place. Mais au final, pour moi, c'est... Un club comme Lyon aujourd'hui, c'est un scandale de finir sixième.
Il devrait être exploré.
C'est un scandale, mais à la fois, c'est une sorte de bouée, comme tu disais tout à l'heure. Et quand toute la semaine, tu vas au travail et les gens te disent « Oui, alors il y a des problèmes financiers. Ah, vous allez aller en Ligue 2. »
Oh, c'est ça.
Et là, tu prends ça sur la tête toute la semaine. C'est compliqué. Et quand tu vois la sixième place arriver l'autre jour, enfin, donc samedi. Samedi soir. Tu la prends comme une bouée de sauvetage et t'es content. Enfin, tu t'en contentes au final.
Ouais.
Tu dis que c'est mieux que rien.
Oui, mais voilà. C'est triste pour...
C'est triste.
connais oui, l'histoire de l'Europe.
Non, bien sûr, bien sûr.
Tu dis ça en tant que supporter. Ouais. Mais moi,
et surtout qu'on n'est pas encore passé devant la DNCG.
Pour moi, tu es directeur sportif.
Moi, j'attends toujours ce paramètre-là.
Ou joueur, tu devrais pleurer. Les gars, ils devraient tous être en train de pleurer. Ouais.
Parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même qui étaient au feu vert.
Oui, mais après, est-ce qu'ils devraient pleurer? Mais on ne sait pas, la plupart ne seront plus là aussi l'année prochaine.
Quand on était venu sur les émissions précédentes, il y avait beaucoup de feu vert. Dans le sens où on était là, on parlait avant la confrontation contre Manchester. L'OL était encore en course pour le top 3, top 4 même. Et au final, on était dans les clous. Et on s'est rendu compte, on en parlait sur le sprint final, il y a beaucoup d'équipes qui perdent des points et c'est là où il faut être le plus performant. Seul Marseille aujourd'hui a tenu la dragée et a été tout droit avec Monaco. Mmh. Le reste, toutes les équipes ont perdu des points et nous, on n'a pas su répondre. On n'a pas su aussi élever notre niveau de jeu contre Monaco. Enfin voilà, c'est. Mais.
Oui, parce que rappelons quand même que la semaine dernière, les trois équipes devant nous chutent
bien
sous
sûr.
Un scénario incroyable où l'OL peut être quatrième et l'OL montre rien.
Et Monaco n'a pas été exceptionnel. Hein, oui. On n'a pas joué un bon exemple.
Je dis qu'on mérite aujourd'hui cette place-là. Et par contre, ça c'est le sportif et ça c'est les joueurs. Parce que là on parle plus finance. Quand on est en capacité d'être européen jusqu'à la fin et qu'on perd dans des confrontations directes, on peut s'en prendre au staff et aux joueurs. C'est pas John Textor là.
Non. Ouais. Donc, après on n'a pas fini comme les autres saisons comme des boulets de canon. Enfin, en général on finit les saisons comme des boulets de canon. Là c'était vraiment plat, très plat.
C'était plat. Est-ce que la décision prise en milieu de saison de limoger Pierre Sage, de faire venir Paolo Fonseca, est-ce que ça joue aussi dans ce résultat final?
Alors, moi, très sincèrement, j'étais pas du tout pour licencier Pierre Sage, que j'adore et tout, mais j'ai vu une amélioration quand même dans la manière de ressortir le ballon, dans l'organisation défensive, dans l'organisation offensive. Et j'ai plutôt trouvé que c'était pas mal. Bon, après, au bout de trois matchs, il se retrouve dans la tribune, voilà. Mais je pense que ça a plus eu une incidence positive que négative.
Pierre Sage, parenthèse, qui pourrait peut-être rebondir du côté de Lens, c'est ce qu'il se dit,
ou
ce qu'il a annoncé qu'il ne resterait pas à Lens. Pierre Sage à Lens, vous dites oui?
Ah oui. Très bon projet. Quand on voit ce que Will Steel a réussi à faire avec les moyens, je pense que Pierre aujourd'hui a les capacités de faire mieux. Et c'est un club pour moi où il pourra exprimer tout son potentiel.
Moi, je le verrais bien revenir à Lyon, mais bon, après, ça, c'est personnel. Franchement, il y a vraiment des points qui m'ont déplu. C'est déjà le fait qu'il les fait partir, c'est incompréhensible. Le fait qu'on fasse venir Fonseca, bon, on doit passer un palier européen, c'est pas ce qu'on a vu sur la fin de saison. Il fait un tête contre tête avec un arbitre, il prend 9 mois de suspension, pardon. Et derrière, moi, je pensais franchement que le club allait le licencier. Et au final, il est toujours là et on fait que parler de l'OL en.
Et on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Dans le mauvais sens. Moi, franchement, je suis pas.
On va se projeter parce qu'effectivement, il y a énormément de questions. C'est ce qu'on a inscrit aujourd'hui, justement, une qualif en Europe et beaucoup de questions avec cet Olympique lyonnais. Mais avant de parler de l'avenir, on va se retrouver dans un instant pour célébrer quand même Alexandre Lacazette, messieurs.
Évidemment.
Ça a été l'événement de la soirée et nous aussi, on voulait lui rendre hommage. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. On est de retour, la deuxième partie de Cop Gun, toujours avec Michael Napoletano, Grégory Cuiron et Thierry Boisrivant. Avant de se projeter, on va s'arrêter quand même sur Alexandre Lacazette. L'hommage à Alexandre Lacazette qui a disputé son dernier match samedi soir, messieurs, avec l'OL. 391 matchs, 201 buts. On le voit là à l'entrée avec ses enfants pour le coup d'envoi fictif. Il y a eu évidemment ces tifos dans les tribunes, la sortie sous une haie d'honneur, enfin pas une sous, avec cette haie d'honneur de ses coéquipiers alors que le match n'est même pas terminé. Il y a une grande cérémonie après aussi. Pour une fois, et on le souligne parce qu'Edouard est absent, mais il a assez critiqué l'Olympique Lyonnais dans cette émission, l'OL a su dire au revoir à l'un de ses joueurs, à l'enfant du pays.
Ça
fait du bien aussi de voir ça, messieurs.
Bien sûr.
Ouais, alors on ne sait pas forcément par avance que les joueurs vont partir, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne leur rend pas tout le temps hommage. Moi, j'ai fait le parallèle avec Juninho, j'y étais à Gerland, où il a marqué en plus son 100e but.
Pénalty, comme le 200e
lors du dernier match. Oui, ça fait plaisir parce que c'est mérité. Il est quand même revenu par amour du club. Il aurait pu aller n'importe où après Arsenal. Il aurait pu partir plus tôt en Arabie Saoudite, par exemple. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on sent qu'il est très attaché au club et puis il a été très performant, même si cette saison c'était plus en dents de scie, parce que moi je pense qu'il a été vachement handicapé par l'absence de préparation physique et les Jeux Olympiques à son âge. Je pense que ça se ressent physiquement, mais il s'est jamais caché, il a toujours été là et voilà, c'est chouette qu'il ait eu ce bel hommage.
Il y avait énormément d'émotions, pas facile à gérer, Mika, ce genre de soirée, on l'imagine, parce qu'on l'a vu dès l'échauffement, quand le premier tifo arrive du côté des Bad Guns. Déjà, il y a énormément d'émotions. Il a déjà les larmes aux yeux. Il faut aussi arriver à jouer. Il y avait cet objectif d'atteindre la barre des 200 buts.
Ouais.
Il faut y aller quand même sur cette
soirée-là. Je pense que c'était plus ça dans la tête qui lui trottait, plus les 200 buts que de partir. Et on a tellement parlé de cette histoire des buts là que pour passer ce cap-là. Et même on regardait le match et on se disait, mais est-ce que ça va arriver? Et on avait même peur que ça n'arrive pas en fait pour lui. Donc c'était plus ça le problème. Mais au niveau de la gestion, bon, après, c'est un joueur qui a quand même aujourd'hui certaines expériences du terrain, qui a du vécu. Il savait très bien ce qui allait arriver. Voilà, c'est plus, je pense, sur la fin. Après, quand on est sur le terrain, on joue. Mais on appréhende un petit peu le moment, puis les minutes passent. Et puis on s'approche de ce moment-là. Et c'est ça qui touche un petit peu. Mais ouais, on a su fêter notre légende. D'une bonne manière. Ça faut le dire aussi.
Vous étiez Thierry.
Oui, j'y étais.
Vous avez versé votre petite larme.
Un petit peu, ouais, je vais avouer. Non, c'est surtout quand j'ai vu que les joueurs commençaient à aller vers le banc de touche quand ils sortaient, j'ai dit waouh, quand même. Et là, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et là, ça m'a fait.
Parce que le match n'est pas terminé. On fait sortir pour qu'il y ait l'ovation. Ouais. Le fait que même Stéphanie Frappard laisse le temps, cette haie d'honneur, c'est quand même.
Ça, c'est prévu à l'avance. Attention.
Oui, sûrement.
L'arbitre, il est au courant. On sait qu'on va. Voilà, on va devoir.
Après, est-ce qu'Alex était au courant? Je sais
ça
pas,
nous arrive
à nous. Nous, ça nous a surpris. Il avait été très surpris de voir ça.
Nous, ça nous arrivait ce week-end. En championnat, il y a trois joueurs d'équipe adverse qui faisaient leur jubilé. C'était leur dernier match et on a arrêté le match. Pareil, c'est la même chose. Donc, ces choses-là, ça se fait. Hein.
Mais ils n'avaient pas marqué 200 buts en Ligue 1.
Non plus.
Ils avaient fait plus de 300 matchs dans leur club. Mais non, c'est très très bien. C'est très très bien. Franchement, c'est une personne qui est appréciée, respectée, qui est respectable. Et au final, voilà, c'est tout pour lui. Bénef.
On l'écoute, messieurs. Alexandre Lacazette, au micro d'Edouard G.
La joie, l'émotion, et j'ai envie de dire merci beaucoup à tout le monde, à tout le club, à tous ceux avec qui j'ai évolué, tous les coachs, les éducateurs que j'ai eus, et surtout, bien sûr, le public, parce qu'aujourd'hui, ils ont été grandioses avec moi. Et en réfléchissant, j'ai eu souvent des moments difficiles, comme tout attaquant. Ils ont toujours été derrière moi. Et après, ce qui me fait plaisir derrière tout ça, c'est que c'est l'homme qui a apprécié. Et comme j'ai déjà dit, c'est bien d'être un footballeur, mais avant tout, on est des hommes. Donc ça, c'est ça qui me touche aussi, de savoir que humainement, je suis apprécié du groupe. J'ai réussi à faire une belle carrière avec l'Olympique Lyonnais, donc je suis fier et je suis content.
Une très belle carrière avec l'OL, messieurs, qui a débuté il y a 15 ans, le premier match en pro. Et on l'évoquait, le retour, c'était pas forcément gagné. Il est parti à Arsenal en 2017, il revient en 2022. On sait à quel point c'est risqué aussi quand on revient dans son club formateur, quand on a cette étiquette-là. Et finalement, ce retour, il est gagnant pour Alex Lacazette.
Oui, il est gagnant, mais après, c'est un joueur qui connaissait le championnat de France. Donc voilà, il savait où il mettait les pieds. Il était encore dans la force de l'âge quand il est revenu. Hein. Il était encore en pleine bourre. Donc, et puis derrière, oui, il enchaînait. Et c'était un Noël qui était aussi plutôt performant, on va dire.
Et l'an dernier, si l'OL accroche cette Ligue Europa, c'est aussi en grande partie grâce à lui.
Bien sûr.
Il fait une super saison.
Bien sûr, l'année dernière, il fait une fin de saison qui est monumentale. Il obtient des buts, il obtient des fautes, des pénalties, là, qui nous. Franchement, bravo.
La saison dernière, elle est monstrueuse. La saison d'Alex, la saison dernière, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant.
D'ailleurs, dans cette configuration où on est relégable, je pense que s'il n'est pas là, il y a peut-être peu de chances qu'on s'en sorte. Hein, parce qu'il a eu un rôle extrêmement important.
Dans le vestiaire,
de leader, de vestiaire, de relais du coach, tout au long du parcours qu'ils ont fait de la remontada. Là, ça a été un des acteurs majeurs de ce qui s'est passé.
Et il devient aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Donc, derrière Fleury Dinalo, qui n'est pas prêt d'être rattrapé avec ses 222 buts. Vous avez dit tout à l'heure, Mika, c'est une légende. Ah, il y a beaucoup de débats samedi soir sur ce plateau. Il y a eu le débat justement avec Faisal qui était là, Wissam et Karim Mokedem, sur ce terme de légende qui peut être aujourd'hui un petit peu banalisé. Pour vous, quelle place aujourd'hui a Alexandre Lacazette dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, messieurs?
Ah ben moi, pour moi, c'en est une. Hein. Il fait partie des grands. La carrière, la longévité de ce qu'il a pu faire, le nombre de buts déjà, qui se retrouve derrière Florinalo. Tout ce qu'il a pu donner à l'OL, il fait partie des légendes. C'est un garçon aujourd'hui. Alors, pour ma propre personne, il est devant Juninho. Juninho a fait son passage à Lyon. Même si Juninho a vécu beaucoup de choses avec les
titres.
Vous allez
vous faire des ennemis.
Non, ouais, ça va être dur. Pas du tout. Mais pour moi, il est devant Juninho. C'est un
donc
garçon.
Donc vous le mettez où dans pourquoi la hiérarchie? Pourquoi pour vous, le plus grand joueur pourquoi, de l'OL, c'est qui?
Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un garçon qui est né à Lyon, qui a grandi à Lyon, qui est sorti du centre. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Et faire la carrière qu'il a fait en venant d'en bas, des tout petits, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est une légende.
Oui, mais est-ce qu'il a fait autant rêver les supporters de l'OL que Juninho a pu
faire rêver? Peut-être pas l'équipe autour non plus.
Voilà, il n'y a pas l'équipe, peut-être pas, parce que Juninho était dans une équipe monstrueuse avec des... Et c'était l'époque où on était en Champions League, en championnat. Ces joueurs-là ont fait rêver, mais il fait partie des légendes.
Greg, vous le mettez où, vous, dans l'histoire du club?
Alors, je mettrais peut-être pas au-dessus de Juni, mais pour moi, oui, il fait carrément partie des légendes, ne serait-ce que pour son implication dans le club, parce qu'on parle beaucoup de Karim Benzema, qui a fait des choses super, mais il n'a pas fait tant de matchs que ça, Karim Exactement. Benzema, à Lyon. Lacazette, il revient. Karim Benzema, on l'a annoncé plein de fois, revient, mais... L'herbe était peut-être plus verte en Arabie Saoudite, quoi. Et moi, je trouve que Lacazette, il est revenu. Il était encore en effet dans la force de l'âge. Il a vraiment apporté quelque chose. Et parce qu'en plus, la situation du club le peinait. Donc, moi, ça me fait plaisir d'avoir un gars comme ça. Et je trouve que pour moi, il est dans le 11 des légendes.
Mais carrément, moi je suis d'accord avec le fait que c'est une légende. Tout le monde dit que oui, il faut avoir des titres pour être une légende. Non, je suis pas d'accord avec ça. Le nombre de matchs qu'il fait, le fait de démarrer sa carrière ici, de partir, d'aller jouer à Arsenal, de revenir chez nous, par amour du club, parce que comme tu disais, il aurait pu aller ailleurs. Et franchement, oui, c'est une légende. Il n'y a pas à ergoter plus que ça. Enfin, je comprends pas les gens qui ergotent sur le sujet.
Quand on compare. Totti et De Rossi à la Roma, ils n'ont pas beaucoup de titres.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est des légendes du club.
Puis il y a des clubs où il n'y a pas de titres jamais. Donc il y a voilà, une question se pose.
Ouais,
au final.
Regarde Paoletta à Paris.
Bien sûr.
C'est une légende, il n'a pas gagné tant de trucs que ça. Non, il est au-dessus de Kader Keita, on en a parlé un peu.
C'est ce que je vois. Si je vous demande votre trio des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'OL, messieurs, du coup, ce serait quoi?
Trio. Ouais. Greg Coupet, Lacazette. Et après, il y a Juni qui est là aussi. Voilà, trio. On m'a dit 3, je dis 3.
Oui, je vais aller plus loin. Je pense que je mettrais bien un petit Bernard Lacombe quand même.
Ouais.
Parce qu'il a vraiment pas de pile. Il est passé par plusieurs. Alors
moi, je parle
postes.
De ma génération.
Ah oui, moi, oui, je parle de la mienne. Chacun la sienne.
Il a 75 ans.
Oui, moi, j'en ai ça 42. Donc, non, mais voilà, je dirais. Ce que j'ai pu voir.
Je vois ce que tu as. Mais c'est vrai que Bernard Lacombe, parce que je trouve qu'il a. Voilà, je crois même qu'il avait des parts dans le club à une époque. Enfin, voilà. Il y a quand même Juni, parce que même si, bon, le dernier passage n'était pas foufou. Et. Ouais, après, moi, je dirais plus Alexandre Lacazette. Alors, d'aucuns diraient peut-être Dinalo, mais là, je ne vais pas quand même remonter aussi loin.
Moi, c'est pareil, je vais prendre un peu ce que j'ai connu. Il y a Eugène Kabongo qui m'a beaucoup marqué, moi, à l'époque. Quand on était en D2, la remontée, tout ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été un personnage important. Après, bah, forcément, Juninho, là, je ne peux pas passer au travers. Et puis, bah, Alexandre Lacazette, évidemment, parce que là... Oui, je pense que là, les deux, on peut les mettre ensemble.
Ouais. Une question sur Alex Lacazette quand même. 34 ans dans 10 jours, il quitte l'Olympique Lyonnais, mais il ne met pas un terme à sa carrière. Pour le moment, il n'a pas parlé de sa future destination, même si voilà, il y a certaines choses qui se disent. Vous le voyez où, vous, la saison prochaine?
À Saint-Priest.
Mika, vous êtes rentré en discussion?
Tout de suite, je signe. Non, franchement... Point d'interrogation, est-ce qu'il partira aux Émirats? Est-ce qu'il partira dans un club un peu moins huppé? Quel temps de jeu il aura? Quelle place il aura? Je sais pas, franchement, c'est compliqué à dire.
Et alors, je me permets de le dire, il a la présence d'esprit de peut-être s'arrêter à temps. Peut-être que l'année suivante.
À Lyon,
à Lyon,
tu veux dire?
À Lyon, autant pour moi. Le fait de s'arrêter à Lyon maintenant, alors peut-être qu'on lui aurait rien proposé, mais ça serait étonnant. Je pense qu'il a la présence d'esprit de s'arrêter au bon moment, parce que comme tu dis, là, cette saison, elle était quand même un peu plus compliquée, même s'il a apporté beaucoup avec les JO et tout ça, et ça a été plus compliqué pour lui. Je pense qu'il a. Il fait bien de s'arrêter maintenant. C'est le bon moment.
Ouais,
et par contre, où il va?
Le Qatar, les Émirats.
C'est plus tentant au niveau financier, mais moi, je le verrais bien en MLS. Je le vois pas aller dans un club minimum moyen dans un championnat majeur. Quoi. Mm-hmm. Je vois plus aller dans un truc où il jouera quand même.
Ouais, c'est pour ça que je dis quelle place il va avoir. Ouais. Donc,
MLS, moi donner. Je verrais bien en MLS. Voilà.
On aura la réponse sûrement très prochainement, dans les prochaines semaines, avant de refermer ce chapitre. Alexandre Lacazette, messieurs, vous le savez très certainement, on était en soirée spéciale samedi soir avec un dispositif exceptionnel dans toutes les régions, les BFM régions. On a vécu cette dernière journée de Ligue 1 ensemble. Mmh. Et pour clore ce chapitre, ben, on voulait revivre les commentaires de Hugo Caprioli, le 200e but d'Alexandre Lacazette avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. C'était samedi soir sur BFM Lyon.
Alexandre Lacazette, tous les supporters sont debout, du droit sans doute face au portier angevin. Lacazette en deux temps et c'est bon, ça passe, le général qui célèbre, tout le monde est debout. Oui, Alexandre Lacazette qui marque bien ce soir son 200e but avec l'Olympique Lyonnais. Le général n'a pas tremblé pour son dernier match. 1-0 pour l'OL, le Groupama Stadium se lève, 1-0 grâce à Alexandre Lacazette.
Et voilà, messieurs.
Il a pas enlevé la veste, il a pas.
Non. Bah, c'est non, il a
sérieux,
pas.
Hein. Il aurait pu se rouler par terre.
Bah, hein. Il aurait dû célébrer.
Bah, il était quand même enjoué, messieurs.
Ouais. Oui.
Il nous l'a fait vivre cette soirée. C'est un dispositif exceptionnel qu'on vous reproposera évidemment sur BFM Lyon. Vous restez avec nous. Allez, il est l'heure de se projeter maintenant la saison prochaine. La DNCG, on l'a évoqué. La compo aussi, les départs. Qui va être encore à l'OL avec le maillot la saison prochaine? On en parle dans un instant. À tout de suite. Et on se retrouve pour la dernière partie de Cop Gun, messieurs, pour se projeter donc sur cette saison prochaine, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. On le disait, les départs, la DNCG. Quel avenir pour l'Olympique Lyonnais? C'est le thème de notre dernier débat de la saison. Je vous vois faire les gros yeux, Mickaël. Compliqué de répondre à cette question.
Ouh là là, c'est le flou total. C'est ça.
On t'a pas proposé le poste, non?
Non, pas du tout.
Il va falloir déjà savoir où nous serons. Attendons, alors la DNCG, je ne sais pas quand c'est qu'elle passe, mais...
Ça devrait être fin juin, généralement c'est fin juin, non?
Fin juin, alors le problème qu'on a, c'est que en termes de supporters, les abonnements et tout ça, enfin...
L'OL reprend le 7 juillet, l'entraînement, on l'a appris aujourd'hui.
Donc oui, quand on ne sait pas où on va, c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'on va vraiment passer cette DNCG sans faute, comme avait l'air de le dire apparemment John Texter samedi?
Enfin, j'ai pas tout. D'après le propriétaire américain, il faut pas s'inquiéter. Ouais. L'argent est là.
L'argent est là cette semaine.
On s'inquiète jamais depuis deux ans avec lui.
Non, faut jamais s'inquiéter.
Avec lui, faut jamais s'inquiéter depuis deux ans. Tout va bien, la gestion est bonne, mais les chiffres sont toujours négatifs. Il y a des problèmes. Va bien. La DNCG tombe dessus. Alors que quand avant qu'elle nous donne la rétrocotation administrative en Ligue 2, tout est nickel. Hein. Tout va bien. Mmh. D'un coup, ça tombe sur la tête. Non, vous inquiétez pas. C'est histoire d'un papier. Non, à un moment donné.
Pour l'instant, on l'a toujours là.
Il y a le premier passage devant la DNCG. Il peut y avoir une décision rendue. On sait comment c'est aussi derrière. Il peut y avoir plusieurs semaines des va-et-vient pour qu'au final, en dernière minute, l'OL ait repêché en Ligue 1. Enfin, ça peut être un été très compliqué pour préparer la saison.
Moi, c'est comme ça que je le sens. C'est-à-dire que les recrutements vont être bloqués, patin coup fin, qu'on ne sera pas en Ligue 2 l'année prochaine. Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, on a quand même Arès qui est derrière. C'est pas John Textor qui dort mal en ce moment, hein, c'est Arès, hein, parce qu'ils ont 450 millions dans la nature et ils peuvent pas se permettre que Lyon soit en Ligue 2, parce que ce qui fait la valeur en grande partie du club, c'est le stade. Et l'exploitation du stade avec un club en Ligue 2, ça va coûter encore plus d'argent. Enfin, et donc je pense qu'à un moment, s'il le faut, ils remettront la main à la poche, quitte à virer Textor. Donc je pense pas qu'on sera en Ligue 2, mais on peut avoir une préparation catastrophique, c'est-à-dire où on recrute pas.
Mais si Arès fait comme ils ont fait avec Milan. Ouais. Lyon a des jours très sombres à venir. Parce que ça veut dire que la gestion du club va être au rabais.
C'est ça.
Il y aura peu de mouvements.
T'as vu Milan derrière, ils ont quand même réussi à ressusciter. Quoi, mais
Milan a ressuscité.
Oh là ça va mieux.
Comment ils ont fini cette année.
C'est pas fou. Mais
Non.
Et il n'y a pas que les joueurs. Hein. Après, on parlera des salariés.
Non,
il y a plus.
Si Arès reprend la main sur les joueurs et c'est via Textor, tu vas voir que ça va être très compliqué.
Mais eux, ils vont la reprendre pour la CD derrière. Ils sont propriétaires.
John Textor, on sait qu'il est loin de faire l'unanimité. Depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, les supporters ont encore passé des messages samedi soir. On va regarder les banderoles. Ça s'est passé en trois temps. Il y a d'abord eu cette banderole. Les historiques virés, l'Empire vendu, les valeurs bafouées, la formation insultée. Que reste-t-il de l'OL? Textor en trois ans, c'est quatre entraîneurs, deux directeurs généraux, deux directeurs financiers, 1000 promesses. Et puis enfin, avec John Textor, on va en Ligue des Champions? Non. Alors, dehors. Et il n'y a même pas de question, il n'y a pas de point d'interrogation. On a compris le message des supporters. Compliqué aussi dans ce contexte-là, de rester pour John Textor.
Ouais, comme disait Mika, lui, c'est tout va toujours bien. Donc je pense pas qu'il se sente non désiré, il s'en fout.
Ah oui, complètement.
Là, c'est dramatique.
Ouais. Non, mais c'est une garantie que lui, les supporters, il en a rien à faire. L'histoire de l'OL, il en a rien à faire.
Ah, mais il évite tous les groupes de supporters.
Je pense que c'est Botafogo, son truc.
Là, aujourd'hui, lui, c'est un homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il est là pour prendre de l'argent. Il est là pour faire des écritures de chiffres, pour prendre de l'argent, faire des transferts, enflouer les caisses de l'un, de l'autre, utiliser l'argent de l'un, de l'autre. Il est là que pour ça. Ça fait depuis qu'il est arrivé, en fait. En interne, tu poses des questions à qui tu veux, on le voit jamais, on sait pas ce qui va se passer. Il est là pour faire du business, point barre.
Je vais te parler, nous, en termes de supporters. On arrivait à voir le président Aulas au moins une fois, voire deux fois par an, et certains autres groupes plus que ça. Et là, John Textor, on ne l'a jamais vu. Il ne prend pas le temps d'aller voir les supporters. Il s'en fout. Enfin, il faut être honnête, il s'en fout.
Non, mais tout le monde se pose des questions, que ce soit chez les pros,
il s'en fout de
à l'académie. Tout le monde se pose des questions. Les fournisseurs ne sont pas payés, il n'y a pas de collation pour les jeunes, les déplacements, c'est compliqué. Mais attends, mais c'est impossible, c'est impossible comme un club comme l'OL aujourd'hui que ça se passe comme ça en interne. Donc au final, c'est aujourd'hui un empire qui est en train de s'effondrer.
Est-ce qu'il peut partir? On parlait d'Arès. Est-ce qu'Arès peut mettre de côté John Textor?
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut assister à ça?
Oui,
cette
bien sûr.
Selon vous,
oui,
bien sûr. Au moins, on creuserait moins le déficit. Ouais. Après, en effet, ce serait pas un truc fou, mais on creuserait moins le déficit avant d'être haché. Mais pareil, moi, je suis désolé. C'est sûr que parfois, on parle d'Arabie Saoudite, on dit oui, il y aurait des millions et tout. Moi, je préférerais qu'on ait un propriétaire qui respecte les droits de l'homme et qui soit. Voilà. Mais,
la seule chose que Textor dit, c'est ce qu'il se dit, je pense, c'est qu'il pense que lui, la DNCG, va pas taper sur Lyon. Pourquoi? Parce que Lyon est un club emblématique de la Ligue 1. Que sans Lyon, les droits télé, ça chute. Il y a déjà des problèmes de droits télé.
Il y a déjà des problèmes.
En ce moment. Donc il se sert de ça, en fait. Il se dit, tranquille, ils vont pas nous tomber dessus. On va s'occuper des finances et tout.
Ils lui ont quand même fait un appel du pied en décembre, je veux dire.
C'est pas un appel. Ça, c'est un tac à la gorge.
Mais ce qui se passe avec les droits télé en France, ouais. Si t'enlèves Lyon, qu'est-ce qui va se passer?
Bon, il y a la DNCG, cette menace. Il faut qu'on attende la décision.
C'est ça.
Il y a l'équipe, la saison prochaine, à quoi elle va ressembler? Parce qu'Alexandre Lacazette...
Un gruyère.
Mais ça ne devrait pas être le seul à partir. Si l'on en croit, Edouard Jay est toujours bien informé. On est sûr que Niakate reste. Corentin Tolisso, ça pourrait le faire. Mais après, sur le 11 de départ de l'OL cette année, les joueurs les plus utilisés, ça pourrait partir dans tous les sens.
Maitland Nice, peut-être. On va garder Maitland, non?
À minimum.
Mata est en fin de contrat.
Ah
aussi,
ouais,
je crois.
Lucas Perry a reçu des propositions. Il pourrait partir aussi. Ouais. Malik Fofana, on ne sait pas trop d'histoire. Ryan Cherki, il l'a annoncé lui-même.
Oui,
on
l'a annoncé, ouais.
On l'écoute. Ryan Cherki, justement, à la fin du match.
Je pense que ça a été ma dernière. Maintenant, je suis prudent. Je sais ce que j'ai vécu... L'été dernier, ça n'a pas été facile à vivre pour moi. J'oublie pas par où je suis passé. J'ai commencé la saison au Loft alors que j'ai jamais trahi le club. J'ai tout donné pour ce blason. Ça n'a pas été une saison facile. On m'a beaucoup craché dessus en interne. On a beaucoup mal parlé de mon entourage alors que le seul homme qui prend les décisions, c'est moi. Je vais voir où le vent me mène. Mais en tout cas, je suis fier de toute l'équipe. Je suis fier de ce que j'ai fait à l'Olympique Lyonnais. Et bien évidemment, j'oublie personne. Jean-Michel Aulas, qui a été le précurseur de beaucoup de choses. John Textor, malgré tout. Merci à tous, aux coachs que j'ai vu passer à l'Olympique Lyonnais. J'ai réalisé tellement de rêves ici. Et si je pouvais faire passer un mot aux supporters, tous les jeunes Lyonnais qui montent et qui arrivent, prenez-les sous votre aile, parce que c'est grâce à vous qu'ils auront envie de rester au club, c'est grâce à vous qu'ils auront envie de marquer l'histoire, parce que quoi qu'il arrive, je reviendrai.
Il y a de l'amertume quand même dans les propos de Ryan Cherki. Ça a été dur pour lui cette saison.
Ouais, il y a de l'amertume. C'est une revanche, je pense, pour lui, ce qu'il a vécu. En fait, aujourd'hui, il envoie un message en disant voilà ce que j'ai pu faire malgré ce que vous m'avez fait. Et il dit on m'a craché dessus, surtout en interne. Donc c'est ça, moi, qui me.
C'est gênant.
C'est gênant, ouais, c'est d'entendre gênant. Ça quand même.
On s'en est pris assez proche.
Ouais, c'est gênant quand même d'entendre ça.
C'est dur, hein.
Je pense qu'il a dû vivre un moment pas très cool quand ils l'ont poussé dehors. Pour essayer de prendre de l'argent et quitte à inventer des choses même, donc
de fortes chances.
Ouais.
Mais là, le problème, c'est qu'il dit qu'il veut partir, mais il le dit aussi. On a vu ce qui s'est passé l'an dernier. Ouais. Est-ce que réellement l'OL va accepter une offre pour faire partir Ryan Cherki?
Je pense que vu le salaire qu'il a, ils voudront qu'il parte. Mais à mon avis, celui à qui il en veut le plus, il est plus là et c'est pas Laurent Puydôme. Voilà. mais c'est vrai qu'il a l'air un peu tristoun, mais on peut que le remercier parce qu'en effet, il a jamais triché. Même quand on disait qu'il faisait le joueur de futsal, Voilà, il a toujours été là et je suis content qu'il ait terminé sur une bonne note parce que ça faisait longtemps qu'on attendait un peu.
Et on a vu l'émotion sincère aussi, les larmes, le couler de Ryan Cherki parce que ce sont ces joueurs aussi avec la Dead Lyonnais qui vont partir. C'est ce qu'on perd aussi malheureusement, hein, plus les années passent dans ce club. Fofana, Perry, Cherki, Lacazette, Tagliafico, la ligne, c'est longue. Est-ce que réellement, voilà, Daniel Tesman aussi, c'est peut-être une bonne chose si on l'a plus rapidement parce qu'on n'a pas de temps. Mais à quoi elle va ressembler cette équipe? Vous êtes inquiet ou pas pour cette OL version 2025-2026 en un mot?
Complètement inquiet.
Oui, en un mot, oui.
Inquiet.
Oui, bien sûr. Oui, totalement.
Oui.
Et il va falloir encore reconstruire. Enfin, on a l'impression qu'on passe notre temps. Alors, je sais pas
on si Mickaël. Un mot.
Voilà. Je sais pas si t'as des tuyaux, mais il paraît qu'il y a une génération qui arrive, qui est bien là du centre de formation.
Non. Non.
Alors, c'est Karim Okedem sur ce plateau samedi était très inquiet. Il a été
mangé la réserve. Sur l'académie.
Non. On en reparlera, messieurs. Je suis désolée.
Pas de souci.
Le temps passe. Les autres résultats du week-end. Fanny Cousin.
Les féminines de l'OL se sont offertes ce week-end un 18e titre de championne de France face à des Parisiennes impuissantes. Les Lyonnaises ont fait respecter la hiérarchie, elles qui avaient fini la saison régulière invaincue. Si la première période a été plutôt équilibrée, le but de Dumornay juste avant la pause a tout changé. Au retour des vestiaires, Diani puis Renard d'une belle Panenka sur pénalty permettent à l'OL de s'imposer 3-0. Après les désillusions en Coupe de France et Ligue des Champions, les Fenottes terminent donc l'année sur une bonne note. En top 14, cruelle désillusion pour le Loup qui est reparti samedi de Jambouin sans le moindre point. Malgré une entame de match réussie avec deux essais de Botta puis Ratez, le club rhodanien a vu le Stade français revenir au score juste avant la pause. En deuxième période, les deux équipes se répondent coup sur coup, mais les Rouges et Noirs finissent par craquer dans les dernières minutes. Le drop de Léo Berde dans les arrêts de jeu trouve le poteau et le Loup s'incline finalement d'un petit point 31-30. Avec cette deuxième défaite de rang, le Loup est 11e au classement et doit absolument se ressaisir avant la finale de Challenge Cup vendredi à Cardiff. Et puis en basket, l'ASVEL doit se contenter de la deuxième place du classement de Betclic Elite. Pour la 30e et dernière journée de saison régulière, les Villeurbannais ont tremblé jusqu'au bout face à des Dijonais bien décidés à créer l'exploit. Largement devant en début de partie, les hommes de Pierrick Poupé ont subi un gros trou d'air dans le troisième quart-temps et vu les Bourguignons revenir. Mené de 6 points au début du dernier acte, l'ASVEL a fini par reprendre l'avantage dans un money time très tendu pour finalement s'imposer 84-83. L'ASVEL qui attend désormais de connaître son adversaire pour le premier tour des playoffs, ce sera soit Chalon, soit Dijon.
Un grand merci messieurs, c'est la fin de la saison, le moment de vous remercier pour votre présence encore une fois tout au long de cette saison. Et tous les autres aussi, on va pas citer tout le monde, mais un grand merci à tous d'être disponibles tout le temps le lundi.
Salut Edouard.
Merci à toi. Salut Edouard.
Voilà. On se retrouve
l'année prochaine
avec plein de choses à se dire.
Avec un grand plaisir.
Allez, on se donne rendez-vous le 18 août, la reprise de la Ligue 1. Très bonne soirée à tous.